Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez quand la nature reprend ses droits parmi les voitures, l'asphalte et le béton, quand herbes folles, plantes, escargots ou bien même mulots reconquièrent les trottoirs, les couloirs du métro et les terrains abandonnés dans nos villes. Nous parlons de la biodiversité urbaine dans C'est pas du vent aujourd'hui. Comment le vivant peut-il s'installer dans un milieu a priori hostile et que peut-on envisager pour protéger les espèces végétales et animales qui peuplent nos villes? Elle s'est prise de passion pour les friches urbaines, ces endroits que la ville a laissés de côté et sur lesquels a poussé une végétation parfois luxuriante. La botaniste Audrey Muratet publie le recueil Flore des friches urbaines aux éditions Xavier Parral avec de très belles photographies qui donnent à voir la splendeur de cette biodiversité méconnue. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Benoît Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des responsables scientifiques du programme de sciences participatives Viginature au Muséum National d'Histoire Naturelle qui vise à observer cette biodiversité urbaine. Et en duplex depuis les studios France Bleu Hérault, dont on remercie les équipes techniques, Ophélie Robineau, chercheure en géographie, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez jusqu'à tout récemment chercheuse au sein du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, pour lequel vous avez notamment travaillé sur la question de l'agriculture urbaine dans la ville africaine, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Des terrains d'usines désaffectés, des ruines d'habitations, des vergers à l'abandon, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des friches urbaines, des endroits en somme laissés à l'abandon à l'intérieur des villes. Audrey Muratet, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ces friches urbaines ?
Alors, les friches urbaines, je les ai abordées il y a un peu plus d'une dizaine d'années en faisant une étude sur la diversité floristique qu'on peut trouver dans tous les espaces de nature en ville. Donc, les cimetières, les parcs, les pieds des arbres et les friches. Enfin, une première conclusion que j'ai pu avoir suite à cette étude, c'était que les friches étaient les milieux qui abritait la plus grande diversité floristique dans les villes et donc qui jouait un rôle de réservoir de biodiversité important. Suite à cette première étude, j'ai cherché un peu plus à approfondir le rôle de ces espaces, à la fois donc comme réservoir, mais aussi comme espace relais pour le déplacement des espèces, notamment végétales, en ville.
Et une biodiversité plus riche que dans d'autres espaces de la nature en ville. Comment elle se caractérise, cette biodiversité? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces friches urbaines?
C'est une biodiversité qui est riche et qui est complémentaire de ce qu'on peut trouver dans les autres espaces plus gérés. Donc on va trouver notamment des espèces qu'on dit plus urbanophobes, donc qui sont peut-être un peu moins adaptées au milieu urbain que des espèces qu'on peut trouver dans les jardins, donc qui sont un peu plus maîtrisées ou gérées. Donc parmi ces espèces, on va trouver par exemple beaucoup d'espèces bisannuelles, qui sont des espèces qui développent d'abord la première année une rosette de feuilles, donc qui vont mettre du temps à s'installer, puis la seconde année qui vont commencer à produire des fleurs. Grandes plantes, donc qui sont très visibles dans les friches, qui colorent beaucoup ces espaces avec ces inflorescences donc jaunes, violettes. Et donc c'est un peu une spécificité de ces espaces d'avoir des espèces qui mettent un peu de temps à s'installer et qui nécessitent aussi une perturbation un peu chaotique de ces espaces pour pouvoir revenir d'année en année.
Et si nous partions en exploration au plus près de cette biodiversité méconnue de nos villes avec la passionnée, elle aussi, d'écologie urbaine, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, Nathalie Machon, suivie dans les rues de Paris par Guillaume Thibault.
Cette petite plante qui se trouve là au ras du trottoir mais qui normalement se trouve plus haut sur les murs, c'est une plante qui, pour moi, est la plus jolie qui soit. Elle est merveilleusement belle. Elle a des couleurs très très jolies et elle a des feuilles qui ont une forme magnifique. Voilà, c'est la cymbalaire des murailles et personne ne la connaît. Quand je la montre à des gens qui ne sont pas habitués à observer la flore, ils sont toujours très étonnés de se dire qu'ils ont dû passer 1000 fois à côté de cette plante sans la voir, tellement Elle est discrète, mais pourtant, elle est vraiment très jolie. Pour moi, c'est la plante sauvage des rues, la plus méconnue et pourtant la plus jolie.
Cette plante a complètement sa place dans notre environnement urbain.
Alors, elle a sa place dans la mesure où toutes ces plantes qu'on voit depuis le début, c'est des plantes qui supportent relativement bien le piétinement, qui supportent de ne pas avoir beaucoup de sol, qui supportent de ne pas avoir beaucoup d'eau. L'eau est tellement canalisée au niveau des caniveaux, des bouches d'égout, etc., que la flore doit se contenter de ce qui tombe du ciel et elle n'a vraiment pas beaucoup accès à l'eau. Il faut qu'elle supporte la pollution, parce que les gaz d'échappement, on voit quand même pas mal de choses, les déjections canines, enfin... Elles vivent dans un milieu qui est quand même très très particulier, mais toutes ces plantes-là, elles ont la particularité justement de supporter ces milieux qui sont insupportables pour d'autres espèces. Donc après, c'est au libre choix des citadins de décider s'ils veulent ou non cette biodiversité. Moi, mon choix personnel, je préfère une rue avec des plantes que sans plantes, mais je pense que c'est en connaissant les plantes qu'on peut prendre la décision de nettoyer ou pas nettoyer comme on veut.
Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. Every night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. You know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Documenter cette flore, c'est la mission que vous vous êtes fixée, Audrey Muraté. À quelles contraintes, Nathalie Machon en parlait, ces espèces végétales font-elles face ?
Donc à peu près les mêmes contraintes dont elle parlait. Et on peut aussi rajouter donc les friches qu'on a par exemple en Île-de-France, beaucoup c'est des anciens sites industriels donc qui ont des sols particulièrement pollués par des métaux lourds. Et donc on va trouver pas mal d'espèces qui sont adaptées à ces pollutions particulières des sols. Dans le sol, on va trouver des concentrations assez fortes en plomb, en arsenic, en cuivre. Et donc, par exemple, on a le fromental qui est une espèce qui est adaptée à des fortes concentrations de cadmium dans le sol.
Benoît Fontaine, vous, c'est à la faune que vous vous intéressez en particulier. Quelles sont les espèces animales que l'on peut trouver dans nos villes ?
Il y a énormément d'espèces qui vivent en ville. Alors forcément, il y a moins d'espèces en ville que dans une nature plus sauvage. Mais les villes sont pas du tout des déserts. Il y a toute une série d'espèces qui sont assez adaptables, assez généralistes, qu'on va trouver aussi bien à la campagne qu'en ville. Par exemple, le pigeon ramier ou le merle noir, deux oiseaux qu'on va trouver dans toute la France, et y compris au cœur des villes. Et puis on va avoir des espèces qui trouvent dans les villes un habitat qui leur convient particulièrement, et en particulier chez les oiseaux, des espèces qui naturellement, avant qu'il y ait des villes, vivaient dans les zones de falaises, et elles trouvent dans les bâtiments des habitats de substitution pour faire leur nid. On a aussi des espèces exotiques qui viennent d'autres régions de la planète et qui trouvent dans la nature, dans les milieux ruraux, elles vont avoir trop de compétition. Et elles vont trouver en ville un endroit où elles peuvent s'installer. Et par exemple, on a depuis 10 ou 20 ans, dans les capitales européennes, dans les grandes villes européennes, on a beaucoup de perruches qui viennent d'Asie ou d'Afrique, des perruches à collier, et qui maintenant sont des oiseaux qui font partie du paysage urbain, du paysage parisien par exemple. Et on a enfin des espèces que la plupart des gens ne remarquent pas, mais qui sont là. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un épisode neigeux très, très important à Paris. Et au Jardin des Plantes où je travaille, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la nature au Jardin des Plantes, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on s'est aperçu, en allant se promener dans le jardin qui était à ce moment-là fermé au public, qu'il y avait des traces de renards dans le Jardin
en
des Plantes,
Paris.
Donc en plein Paris. Et personne ne l'avait jamais vu, mais les traces prouvaient qu'il était là.
Ophélie Robineau, vous qui vous êtes intéressée aux villes africaines et en particulier à celle de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, quelle est la place de la nature sur ces territoires urbains ? On parle d'un continent africain qui a la croissance urbaine la plus rapide au monde.
Quand on parle des villes d'Afrique et notamment d'Afrique de l'Ouest, on a des villes qui abritent aussi une biodiversité relativement importante, mais peut-être que je parlerai plutôt d'une agro-biodiversité, parce que cette biodiversité, elle concerne à la fois ce qu'on pourrait nommer de la nature en vie, notamment les arbres, les espèces arborées, les plantes ornementales, mais aussi et surtout l'agriculture. Et on pourrait aussi plutôt parler de ce que j'appellerais une biodiversité utile, entre guillemets, c'est-à-dire que cette biodiversité en fait, qui existe en ville et qui se maintient en ville, elle est utile d'un point de vue à la fois socio-économique et même parfois politique. Avec d'une part, on a du coup cette agriculture nourricière et d'autre part, on a l'arbre qui joue un rôle important pour la qualité de vie en ville. On est quand même dans des contextes où il fait extrêmement chaud, c'est aussi très poussiéreux et du coup l'arbre participe à maintenir aussi une bonne qualité de vie dans le milieu urbain. Mais on est aussi dans un contexte comme dans les pays du Nord où cette biodiversité est fragile dans le contexte d'urbanisation. On parlait de microflore, de faune et de microfaune en France, mais là-bas, même si on parle d'arbres et d'espaces cultivés ou d'élevage en ville, c'est aussi des choses qui doivent faire face à toutes les contraintes d'urbanisation, les décisions politiques et l'aménagement des espaces.
Effectivement, cette biodiversité reste aussi là-bas menacée. Évidemment, il y a un lien entre plantes et espèces animales. Vous voulez réagir ?
Je voulais juste réagir à ce qui vient d'être dit. On commence à s'intéresser à la nature en ville sous l'angle de ce que ça apporte aux hommes. Et on se rend compte que, outre le fait que la nature peut être une source de... Il peut y avoir de l'agriculture urbaine, etc. Ça peut apporter de la nourriture. Mais il y a aussi une dimension de bien-être qui est très forte. Et on montre que les citadins qui vivent dans des environnements plus verts ressentent un bien-être plus élevé quand il y a de la nature autour d'eux.
Pourquoi c'est important pour vous d'avoir de la biodiversité en ville et de la préserver, Audrey Muraté ?
Je pense que c'est important simplement parce que l'homme fait partie de cette nature. Si on le déconnecte de cette nature, on le déconnecte de lui-même. J'inverserai la question, en fait, pourquoi détruire la nature ? Elle a une raison d'être en soi, donc je pense que c'est... Voilà, maintenant là, et effectivement, on améliorera notre bien-être et on restera connecté à cette nature.
Et en France, et notamment en Île-de-France, puisque c'est votre terrain de prédilection, comment a évolué l'espace qui laissait à la nature en ville ? Est-ce que ces friches urbaines que vous étudiez ont vu leur surface diminuer au fil des années ?
Il y a un outil qui est très utile en Île-de-France qui est fourni par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui est le mode d'occupation des sols, et qui permet de suivre un peu l'évolution des différents milieux qu'on peut trouver en ville. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en 30 ans, dans la région, on a perdu la moitié de la surface occupée par ces friches. Donc c'est vraiment un constat qui est assez alarmant au vu du rôle important de ces espaces pour le maintien d'une biodiversité riche et fonctionnelle en ville. Ce qu'on peut voir aussi avec les données de sciences participatives Viginature du Muséum d'Histoire Naturelle, donc les données Vigiflore, beaucoup de botanistes qui participent à ce programme sur toute la France et qui ont recensé la diversité qu'on peut trouver dans les friches sur tout le territoire. Et en à peine 7 ans d'existence de ce programme, on peut voir qu'on a une diminution de 20% de la diversité observée dans ces friches. Donc elles restent encore les espaces les plus riches en ville, mais cette diversité est en train de diminuer.
Comment la nature peut-elle se frayer un chemin en ville ? La question interpelle Gilles Boeuf, célèbre biologiste, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, on va l'entendre. Mais d'abord, Living for the City de Stevie Wonder.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
A boy's born in hot damn Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough.
sommes entourés de villes, nous vivons en ville. 2007 a été une année exceptionnelle dans l'histoire de la Terre et de l'humanité. On basculait dans un système où il y avait plus d'humains dans les villes que dans les campagnes. C'est particulièrement dramatique dans des zones comme l'Afrique, où les Africains ne sont absolument pas des citadins à l'origine. Donc c'est vrai que quand on fait une ville, on détruit tout. Et donc c'est vrai que à une destruction massive initiale, comment le vivant est-il capable de revenir et de se réinstaller? La question, elle est là. Ce qui est clair, c'est que si on laisse une connectivité entre du plutôt nature, je dirais, hein, que ville, avec des parcs et des corridors de d'arbres, de forêts, de morceaux de terre, avec encore de la végétation, c'est plus facile à faire. Mais on voit le vivant se réinstaller au bout d'un certain temps pour différentes raisons qu'on commence par contre à regarder que depuis très peu de temps finalement.
La nature arrive en ville, dans ses pas du vent. Aujourd'hui, Gilles Boeuf soulève une question intéressante, Benoît Fontaine. Comment le vivant peut-il se réinstaller là où on a détruit, dans des milieux qu'on peut imaginer plutôt hostiles?
Alors le vivant, la nature, elle a une force extraordinaire, elle est partout et dès qu'il y a le moindre espace, elle s'installe. Et c'est pour ça que sur les fissures des trottoirs, on va trouver des plantes qui vont s'installer même dans les rues très fréquentées. Maintenant, si on lui donne un coup de pouce, elle va être encore plus présente. Et là, il y a le rôle des jardins privés, des jardins publics, est très important pour ça. Et on montre, à partir des programmes participatifs de Vigie Nature, dans lesquels les gens, tous les volontaires décrivent les jardins, oui, leurs jardins, décrivent les espèces qu'ils voient dans ces jardins. On montre la façon qu'on a d'organiser son jardin, la façon de jardiner, le fait de laisser un peu de place à la nature, de pas trop de tout tirer au cordeau, de laisser un peu les herbes folles pousser, de mettre moins de pesticides. Toutes ces pratiques individuelles, elles vont avoir un impact fort et elles vont permettre d'attirer des espèces qu'on n'avait pas, auxquelles on n'avait pas pensé au départ, des escargots, des papillons, des bourdons, etc. Et qui vont trouver dans ces jardins des espèces d'oasis dans lesquels ils vont prospérer, alors qu'ils ne sont pas là où il y a le béton.
Une autre forme de nature en ville, c'est l'agriculture urbaine. 800 millions de personnes dans le monde cultiveraient des parcelles en ville ou à proximité immédiate des villes, souvent pour leur propre consommation. On dit que cette agriculture urbaine va devenir de plus en plus importante pour nourrir les 9 milliards d'habitants qui peupleront notre planète en 2050. Ophélie Robineau, vous qui avez étudié cette agriculture urbaine à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, quelle forme prend-elle? Comment se caractérise-t-elle?
Elle prend de multiples formes. Si on prend le cas de Bobo-Dioulasso, on a déjà dans les types de personnes qui les cultivent, on a tout type de catégories socio-professionnelles qui pratiquent l'agriculture en ville. Ça peut être à la fois des familles précaires ou des familles aisées. En fait, on a un lien très fort à la terre. Même quand on a des revenus aisés, on aime cultiver encore quelques pieds de maïs en saison des pluies, avoir quelques poules dans le jardin. Et sinon, à part ça, on a aussi toute une partie de la population qui vit de cette agriculture et qui développe à la fois du maraîchage sur des grands sites maraîchers. À Bobo-Dioulasso, on a un site maraîcher qui fait plus de 70 hectares. En tout, on a plus de 150 hectares de maraîchage. On a aussi beaucoup d'élevage à la fois de porcs, de bœufs, de chèvres, de moutons. De poules, on a aussi des pépiniéristes qui font des plantes ornementales, on a aussi des cultures de saison des pluies en bord de rue, de céréales, d'arachides, etc. Donc on a vraiment toute une diversité de formes agricoles dans la ville qui fait toute sa richesse.
Et l'agriculture urbaine, on l'imagine, présente un intérêt différent dans les pays du Sud et dans ceux du Nord?
Disons que quand on parle d'agriculture, souvent dans les pays du Nord, on est plutôt sur de l'agriculture de loisirs ou éducative ou sociale. Là, on est vraiment sur des formes agricoles qui font vivre des gens. On a plus de 1000 maraîchers qui vivent du maraîchage dans la ville de Bobo-Dioulasso, plus de 500-600 éleveurs. Donc ça fait vraiment vivre du monde, sans compter les emplois indirects via le commerce, etc. Donc elle a vraiment une utilité économique, mais aussi sociale, et qui aussi permet de garder des espaces verts en ville. Comme le disait Gilles Boeuf, on est sur un continent qui s'urbanise très très vite, et on a vraiment une vision que le bâti, c'est la modernité, et que l'agriculture n'a pas forcément grand-chose à faire là. On a aussi... Même si on a des arbres centenaires dans les villes, on a eu à la fête de l'indépendance en 2010 à Bobo-Dioulasso, la commune qui a décidé de couper plusieurs centaines de caïl-cédras, qui sont vraiment des arbres emblématiques de la ville, juste pour faire passer des grosses avenues qui devaient être un peu le symbole du renouveau de la ville. Donc on est vraiment sur une nature qui est assez fragile, et cette agriculture permet de garder ces espaces verts. Alors les arbres ont leur importance, les gens ont manifesté quand il y a eu toutes ces coupes d'arbres. Je voulais réagir à ce qu'on disait un peu sur les friches dans les pays du Nord, c'est qu'en fait, par exemple à Bobo-Dioulasso, les friches, ça n'existe pas vraiment, ou en tout cas c'est saisonnier, parce qu'en fait on a une notion de l'espace public qui est assez singulière, c'est-à-dire que c'est un espace où on peut prendre et laisser ce qu'on veut. Donc ça veut dire que chaque espace libre peut être utilisé, et en fait l'espace libre, c'est un espace d'opportunité économique. Et par exemple, à Bobo-Dioulasso, il y a eu des délimitations de trames vertes, de coup, pour avoir des espaces verts au milieu de la ville, de manière annexe aussi quelques petits espaces agricoles. Et en fait, on se rend compte que ces espaces, ils ont été utilisés comme lieu d'opportunité commerciale, en installant tout un tas de revendeurs, d'artisans, etc. Et où du coup, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de friche, parce que tout est utilisé, soit de manière saisonnière pour cultiver, soit pour installer un petit kiosque. Donc l'espace libre, en fait... où la nature peut se développer par elle-même, n'existe pas vraiment. Il est utilisé d'une certaine manière par l'homme à un moment.
Les friches urbaines sont en fait très vite exploitées par l'homme. Audrey Muratet, l'agriculture urbaine permettrait de préserver une certaine biodiversité dans les villes ?
Alors, l'agriculture urbaine, ça effectivement... pas mal d'intérêt, donc là je parle pour l'Île-de-France, hein, de cohésion sociale, un intérêt pédagogique, comme ce qui vient d'être dit. Après, en termes de biodiversité, donc c'est encore des choses qu'il faut évaluer. Pour l'instant, c'est quelque chose qui se développe, qui est très à la mode. Et comme je vous l'ai dit, par ailleurs, il y a les espaces en friche qui diminuent fortement. Donc je pense qu'il faut réussir à avoir... à maintenir ces deux types d'espaces de manière à avoir des diversités assez différentes.
Benoît Fontaine, comment protéger la biodiversité en ville? On a vu son importance, on a vu aussi qu'elle pouvait être fragile. Quelles initiatives peut-on mettre en place pour la protéger?
Il y a toutes les initiatives qui dépendent des décideurs politiques, de laisser volontairement des espaces qui ne vont pas être bétonnés. Et ça a une importance, comme on parlait tout à l'heure du bien-être qu'apporte le vert, la végétation, la nature aux citadins. La majeure partie de l'humanité, elle vit dans les villes maintenant. Et on assiste généralement à une érosion de la biodiversité, sur toute la planète. Et un des facteurs qui accélère cette érosion, c'est une espèce de désintérêt de la nature. On se déconnecte de la nature, et quand on vit en ville, on se déconnecte encore plus. Et garder de la nature en ville, ça permet de reconnecter un peu. Et c'est un facteur qui est important pour tenir compte de la biodiversité, pour prendre en compte la biodiversité au niveau individuel et après au niveau politique. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour la nature, qui dépend d'initiatives individuelles ou non, c'est très important pour préserver la biodiversité à l'échelle globale.
Et il faudrait aussi impliquer les citoyens, comme ce que vous faites avec le programme Viginature, hein, qui fait appel à des observateurs pour collecter des données sur les espèces animales, végétales, en ville.
Voilà, pour ces programmes qui sont des programmes de recherche, qui visent à faire avancer la connaissance sur la biodiversité, on fait appel à des citoyens volontaires qui, en participant à ces programmes, vont donc d'une part apporter des données et vont aussi se rendre compte que autour d'eux, même devant leur porte, chez eux en ville, ils vont avoir des papillons dont ils n'avaient pas soupçonné l'existence, qui sont des papillons différents, qui sont pas les mêmes à toutes les saisons. Certains vont se rendre compte de l'extraordinaire beauté de la diversité, de la biodiversité qui est présente même devant chez eux.
Et Ophélie Robineau, je vous laisse le mot de la fin. On est conscient à Bobo-Dioulasso de l'importance de la biodiversité, de la nature.
Comme je vous disais, sur cette anecdote, anecdote qui n'en est pas une, de la coupe des arbres, les citadins étaient vraiment attristés, énervés de voir leur arbre, qui est quand même un patrimoine culturel, partir. Et on voit aussi que les habitants sont sensibles à l'existence de toutes ces formes agricoles autour d'eux. Le site maraîcher, le principal site maraîcher de Beaubuyasso est un espace de promenade aussi, que les gens vont visiter avec plaisir, parce que c'est un poumon vert dans la ville. C'est aussi un lieu où il y a un petit marché au milieu de produits agricoles. Donc, en effet, ça crée du lien social, parce que aussi, c'est des espaces agréables qui permettent de mieux vivre la ville, mieux vivre en ville.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Audrey Muraté, vous qui travaillez au sein de Nature Paris. Je rappelle le titre de votre livre. On pourrait presque parler d'ailleurs d'encyclopédie, Flore des friches urbaines, aux éditions Xavier Barral, coécrit avec Myre Muraté et Marie Pélaton. Merci également à vous, Benoît Fontaine, du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et à vous, Ophélie Robineau, géographe depuis les studios de France Bleu Hérault. En coulisses, à la réalisation, François Porcheron. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain sur la même planète et avec le même plaisir.